En tout premier lieu, je souhaite rendre hommage à une personne qui n'est pas là. Elle est retenue à Roland-Garros, c'est Isabelle de Mongeau, sans qui ben, tout ça n'aurait pas existé. Isabelle a courageusement, il y a 2 ans, écrit son témoignage sur les violences dont elle a fait l'objet dans un livre qui s'appelle « Service volé ». Et ce livre a été le point de départ d'un questionnement au niveau du ministère et puis au niveau aussi des gens qui s'occupaient de psychopathologie en milieu sportif. Tout au moins, ça nous a permis de déclencher quelque chose, parce que le questionnement, bien sûr, préexistait, sans qu'il y ait beaucoup finalement de données sur le sujet, puisqu'on n'a quasiment pas de données en France concernant ce phénomène-là. Ce qui n'est pas le cas en Europe, mais ça en aura l'occasion de le développer à l'occasion des différentes communications et de nos intervenants. Donc c'est un premier questionnement qui a donné lieu à un premier travail. On savait bien sûr que ces violences existaient déjà de façon documentée dans d'autres domaines. Violences dans le couple, violences faites aux enfants, ce sont des éléments qui étaient déjà chiffrés, on va dire. Et on pouvait légitimement se demander si le domaine sportif était épargné ou pas, si ces violences étaient présentes là, si c'était anecdotique, si c'était quelque chose au contraire de repérable et de reproductible, et quel type de violences, si elles existaient, on pouvait mesurer, observer dans ce milieu-là. En d'autres termes, est-ce que le sport est un... Faire du sport, une pratique sportive, est un facteur de risque ou un facteur de protection vis-à-vis des violences sexuelles. Donc ça a été nos premières questions, on est parti de là. Et bien sûr, ces questions-là allaient découler sur si on mesurait ces violences, comment il fallait concevoir à ce moment-là une prise en charge, une modalité de prise en charge, mais bien en amont, bien sûr, la prévention. Ça, de ce questionnement découlait un tas d'actions qui n'ont pas attendu la fin de notre étude pour être mises en place. Et donc je laisse le soin à Josette Pinon, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui à Bordeaux, de vous présenter ce programme de lutte contre les violences sexuelles en milieu sportif, donc qui a démarré, comme je vous le disais, il y a 2 ans. Et qui s'est mis en place pleinement au cours de cette année. Un petit peu empiriquement, il faut bien le dire, hein, puisqu'on n'a pas attendu les résultats de l'étude pour agir sur le terrain. Mais c'est ce qui nous a aussi, dans cette interaction entre le terrain et le travail et les données qu'on avait, on a pu progresser beaucoup plus vite et s'adapter d'autant mieux à cette thématique. Donc, Josette démarrera cette présentation. Ensuite, j'espère, je souhaite que la personne qui va représenter l'INAVEM, qui est l'Institut d'aide aux victimes, qui nous a accompagnés dans ce travail, puisse arriver et vous présenter, d'une part, comment pratiquement ils opèrent, puisque c'est une plateforme téléphonique qui existe à Paris, mais qui a des antennes un peu partout régionalement, et donc qui permet aux personnes dans toute la France de pouvoir être entendues, mais aussi orientées vers des structures soins, mais également conseillées sur un plan juridique. Donc c'est vraiment une prise en charge très globale, très générale et très guidée de la personne. Et enfin, Greg Descamps, qui est maître de conférence en psychologie de la santé à Bordeaux 2 et avec lequel j'ai eu le plaisir de travailler pendant ces 2 années, notamment dans la conceptualisation et sur le terrain la réalisation de l'étude nationale que nous sommes allés donc opérer dans différents sites en France. Il vous présentera les résultats, certains des résultats, bien entendu, dont vous aurez la primeur, ce qui est relativement rare, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'en France, on va parler officiellement des résultats de cette étude, et bien avant que les journalistes puissent s'emparer de l'affaire. Donc, vous voyez, c'est énorme. Puisque nous l'avons rendu, et pas encore rendu d'ailleurs, nous l'avons présenté avant-hier au ministère, donc vous voyez, c'est très très récent. Voilà, donc les premiers résultats de cette étude vous seront présentés en fin de session, et j'espère que ça donnera l'occasion de réfléchir ensemble, de se poser des questions encore, parce que...
Voilà, eh bien, donc je suis Josette Pinon, je travaille au bureau DSB2 à la direction des sports. Alors DSB2, c'est un bureau qui travaille dans de nombreux axes, à la fois sur le dopage, vous en avez sans doute entendu parler, et également sur tout ce qui concerne la protection de l'usager, du pratiquant sportif, quel qu'il soit, non seulement par rapport aux aspects juridiques et aux dispositions, l'application des dispositions qui sont prévues par les textes, mais aussi dans le domaine de la prévention, l'un allant forcément avec l'autre. Voilà, donc je suis adjointe au chef de bureau et je m'occupe plus particulièrement donc de la protection du public. J'ai eu la charge de coordonner le programme de lutte contre les violences sexuelles dans le sport, et c'est au cours d'une conférence de presse du 20 juillet 2007 que Madame la ministre Roselyne Bachelot a annoncé sa volonté de mettre en place un programme de lutte contre les violences sexuelles. Voilà. Donc, quelques éléments de contexte. Comme l'a souligné tout à l'heure Sabine Afflelou, la médiatisation du témoignage d'une ancienne sportive constitue le point de départ d'une action ministérielle d'envergure. Donc, lors de cette conférence de presse, une annonce en plusieurs points ont été faits, notamment en termes de sensibilisation et de prévention par divers modes de communication, une campagne d'information, des journées spécifiques consacrées à cette information, l'élaboration d'outils pédagogiques, l'élaboration d'une charte de bonne conduite, la formation des éducateurs et l'écoute des victimes, le suivi des sportifs. Donc vous voyez que c'est un plan d'action extrêmement large auquel nous avons dû essayer de répondre et tenter de répondre assez rapidement. Très peu de documents de référence, comme on vient de vous le dire, sur ces formes de violence en France, car rompre le silence, c'est risquer de s'exclure définitivement du projet sportif. Je crois que ça, c'est une des clés de notre problème. Donc, la première chose, c'est de sensibiliser le milieu sportif. Une étude doit établir notamment le contexte de survenue de ces violences, et c'est le laboratoire de psychologie de l'Université Victor Ségalen de Bordeaux 2 qui en est chargé. L'étude, elle a pour objectif d'établir des éléments de contexte relatifs à la survenue de ces agissements, d'éclairer les autorités notamment sur les représentations qu'ont les sportifs de ces phénomènes, et ça c'est extrêmement important, de provoquer une prise de conscience de la société sportive, pour enfin définir une politique de prévention, d'accompagnement et d'écoute des victimes. Les autres axes de la thématique, 4 groupes de travail ont donc été créés avec une participation représentative des acteurs du milieu sportif pour élaborer donc cette charte éthique, déterminer les modalités de communication, définir les compétences en matière de formation des encadrants, mettre en œuvre des sessions de sensibilisation, et un groupe qui a travaillé un petit peu parallèlement à l'ensemble de ces 4 groupes de travail pour travailler sur les outils de communication et des outils pédagogiques, parce qu'on ne disposait absolument de rien. Donc il a fallu essayer de tout inventer. L'élaboration d'une charte de bonne conduite, là on était aidé puisqu'elle a été élaborée sur la base des études produites par le Comité international olympique notamment la déclaration de consensus sur le harcèlement et les abus sexuels dans le sport, qui date du 8 février 2007. Cette charte a été signée lors de cette conférence de presse par Madame Bachelot et par Monsieur le Président du Comité national olympique et sportif français, Monsieur Henri Serrandour. Cette charte a ensuite été proposée à la signature de l'ensemble des acteurs du mouvement sportif, du mouvement associatif, et nous avons donc appris les derniers chiffres il y a deux jours. Il y a 71 fédérations qui ont signé cette charte. Qu'est-ce qu'elle contient, cette charte? Je suis désolée, ça fait un petit peu un gros pavé. J'ai essayé de réduire au maximum, mais c'est pour vous donner un petit peu l'idée de son contenu. Donc, les acteurs du mouvement sportif adoptent une charte visant explicitement la condamnation de toute violence sexuelle et de toute discrimination liée au sexe ou à l'orientation sexuelle. Ils proclament comme valeur première le respect des personnes. Ils affirment le droit des athlètes à pratiquer le sport de leur choix. Ils œuvrent à faire en sorte que le sport demeure un lieu d'épanouissement des individus. Ils rappellent la responsabilité des organisations sportives. Incitent les adultes investis d'une quelconque autorité à adopter des directives claires concernant leur rôle et leur responsabilité vis-à-vis des sportifs. Ils préconisent l'appropriation de la part de tout organisme ou tout individu des principes permettant de bannir les violences sexuelles du monde sportif et au-delà toute forme de maltraitance qui pourrait être justifiée par la quête d'un résultat. S'engagent à adopter une déclaration de politique générale, demandent à ce qu'un guide de bonne pratique soit mis en œuvre, encouragent les structures sportives à proposer des programmes de formation et d'éducation spécifiques, et enfin propose que la commission médicale fédérale se saisisse de la question des violences sexuelles. Vous voyez, c'est tout un programme. Maintenant que les fédérations l'ont signé, il faut qu'ils la déclinent. Ça, c'est un autre travail. Une campagne d'information a donc eu lieu. Elle a été présentée à l'occasion de la deuxième conférence de presse le 22 février 2008. Elle délivre des messages relatifs au respect du corps et à son intégrité, aux dispositifs d'alerte et aux sanctions encourues par les agresseurs. Le slogan « Sportif, oui, victime, non ». J'aurai l'occasion tout à l'heure de vous présenter quelques visuels de cette campagne. Une mission, parallèlement, a été créée contre le harcèlement et les violences sexuelles. Elle a été placée sous l'autorité d'un inspecteur général, M. Joël Delplanque, avec la participation de Mme Isabelle de Mongeau. Ce dispositif d'accompagnement et de soutien aux victimes a été mis en place grâce à une convention qui a été signée entre la Direction des Sports et l'Institut National d'Aide aux Victimes, l'INAVEM. Et puis, nous avons mis en place un numéro d'appel, le 08 victimes. Alors, je n'irai pas plus loin, puisque notre collègue de l'INAVEM vous présentera tout à l'heure le dispositif. Voici donc les visuels que vous avez peut-être eu l'occasion de voir. Il y a deux sortes d'affiches. Un petit triptyque avec, je n'ai pas pu tout vous présenter, avec donc la présentation du 08 victimes, et puis le rappel... Les violences sexuelles constituent une violation du droit français passible de poursuites judiciaires. Des professionnels sont à votre écoute pour vous aider dans vos démarches. Ensemble, parlons-en. Il fallait également essayer de faire passer l'information auprès des jeunes. Donc, il a été mis en œuvre un certain nombre de sessions de sensibilisation dans des structures ciblées, les CREPS, qui reçoivent et qui hébergent les pôles Espoir et les pôles France, les centres de formation des clubs professionnels, les fédérations, les ligues régionales et les clubs, pour un public de jeunes sportifs, pour l'encadrement, éventuellement les parents. Pour ce faire, il nous fallait des outils. On a créé un DVD, on a fait appel bien sûr à une agence spécialisée. Ce DVD comprend quatre scénettes qui présentent différents contextes dans lesquels des situations de violence sont suggérées. Ce travail se fait évidemment à partir de ces séquences, avec des objectifs généraux, dans des ateliers, sensibiliser aux violences à caractère sexuel, faire émerger les représentations sur les relations entre sportifs et entraîneurs, et entre entraîneurs. Voilà, donc ça c'est le visuel qui, dont l'objet, le sujet, c'est la pression exercée par un groupe en direction d'un sportif. Là, il s'agit de la difficulté de la révélation, une victime et une conseillère. Là, il s'agit d'une séquence concernant une agression déjouée par un entraîneur à l'occasion d'une réunion festive. Là, il s'agit de la relation ambiguë entre un entraîneur et une sportive. Vous aurez l'occasion de la visionner tout à l'heure. Parallèlement, un travail en direction des encadrants s'est mis en place, tant au niveau formation initiale que continue. Donc, un référentiel de compétences a été élaboré. Ce référentiel de compétences a été introduit dans le cursus de formation des éducateurs sportifs, d'une manière générale, et en formation continue auprès des CTS. Alors, il s'agit bien sûr de ne pas se substituer aux professionnels chargés des enfants victimes ou des personnes victimes, mais essentiellement de repérer et de signaler. Le dispositif de sensibilisation, de veille et d'accompagnement des victimes, il est constitué par un réseau de personnes ressources. Ce réseau de personnes ressources est constitué au niveau régional par deux personnes, en général un médecin et un professeur de sport. Sa mission, c'est d'animer un réseau pour décliner les actions, depuis les sportifs de haut niveau regroupés en Pôle Espoir ou en Pôle France, jusqu'aux clubs et aux associations de quartier. Alors évidemment, tout ça, il fallait quand même essayer de le financer et puis de le pérenniser. Donc les premières sessions sensibilisation ont été financées, subventionnées spécialement à cet effet, par une subvention donc versée aux directions régionales jeunesse et sport, qui avaient donc en charge d'organiser ces sessions. La pérennisation de ces actions, nous avons donc produit, élaboré une instruction auprès des services déconcentrés pour que ces actions puissent faire l'objet de projets financés dans le cadre de ce qu'on appelle les budgets opérationnels de programme, les BOP. Donc, lorsqu'une direction régionale a l'intention de mener une session d'information, elle le met dans son programme et il peut être financé par ce type de subventionnement, de financement. Donc, je vous parlais de la mise en place d'un comité de pilotage régional. Il est coordonné donc par un chef de projet qui a été nommé par le directeur régional et départemental de la jeunesse et des sports. Donc en général, ils sont deux, ce que je disais tout à l'heure, un médecin et un professeur de sport. Sa composition doit pouvoir s'appuyer sur tous les acteurs, non seulement du milieu sportif, mais également des professionnels en charge de la prévention et de la sécurité physique et morale des jeunes. Il faut donc identifier le réseau régional mobilisable sur cette thématique. À ce jour, la quasi-totalité des régions ont effectué au moins une session de sensibilisation. Ceci représente 26 sessions organisées en 2008, 50 réalisées en 2009, 58 qui sont prévues d'ici la fin 2009, et actuellement, 5272 personnes ont assisté à une session de sensibilisation, dont 4279 sportifs. Donc, vous voyez, il y a eu quand même pas mal d'actions qui ont été réalisées. Voilà donc le dos du petit visuel. Si vous êtes victime, si vous êtes témoin, si vous avez des doutes, et même si vous n'en êtes pas sûr, il faut en parler.
Un professionnel est à votre écoute pour vous conseiller et vous orienter dans vos démarches. Voilà. On va vous présenter, on va faire vous visionner donc une des quatre scénettes qui constitue le DVD que nous avons fait réaliser en appui donc aux journées de sensibilisation.
Ah, c'est là que tu te caches. Pour affronter la réalité, tu sais, t'as complètement foiré ta compète. De toute façon, dès que t'as plongé, j'ai vu que t'y étais pas. Ça s'embête avec envie. Tous les progrès que t'as fait à l'entraînement, là, y a plus rien. Vas-y, que je reste collé sur le plot, et comme si ça suffisait pas, je me contracte au lieu de me relâcher. La totale! La débutante qui fait sa première course. On dirait que t'as oublié tous mes conseils. N'importe quoi! Tu te disperses, Flo. C'est comme avec ton petit copain, comment il s'appelle? Antoine. C'est un gamin. Tu perds ton temps. Vous êtes ridicule. On dirait ton petit frère. Franchement, tu m'aimes. Surtout que, depuis que t'es avec lui, tes perfs, c'est zéro! Non, Flo! Non! Bon, arrête de pleurer. T'as des qualités, on est d'accord. T'es grande, t'as une super glisse, t'as de bons appuis, mais faut que tu sois plus forte dans ta tête. Voilà. En tout cas, moi, je serai toujours là pour toi. Dans la victoire comme dans la défaite. Ok? Parce que t'as quoi? 15 ans? Même pas? Bon, bah, on va bosser. On va surmonter ça. Les échecs, ça fait partie du parcours d'une championne. Moi, je suis là pour t'aider, tu sais. De toutes les filles ici, t'es ma préférée. T'as un vrai potentiel. Vas-y, crois-moi. Si tu bosses, si tu m'écoutes, ça va finir par payer. Fais-moi confiance, je te connais bien, tu sais. Je vais t'emmener au top niveau, moi. T'as une vraie personnalité. T'es super mignonne. Franchement, on dirait une fille de 20 piges. On va gagner, Flo. On va gagner. Je sens que ça va mieux. Tu sais quoi, je vais te faire un petit massage.
Les violences sexuelles constituent une violation du droit français, passible de poursuites judiciaires. Des professionnels sont à votre écoute pour vous aider dans vos démarches. Ensemble, parlons-en.
Josette, c'est bon ? Oui, bonjour. Alors, je vais déjà vous présenter un petit peu le dispositif, le 08 victimes. Donc, c'est un numéro national qui est à destination des victimes d'infractions pénales et qui existe depuis maintenant 8 ans et qui a été mis à disposition des sportifs victimes, donc depuis le 22 février 2008. C'est un numéro qui est ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 21h. Il est géré par l'INAVEM. L'INAVEM, c'est l'Institut National d'Aide aux Victimes et de Médiation, et c'est la Fédération des associations d'aide aux victimes. En fait, l'INAVEM regroupe 150 associations qui sont présentes sur l'ensemble du territoire français. Au sein de ces associations d'aide aux victimes, il y a des juristes, des psychologues, des travailleurs sociaux qui assurent une prise en charge globale, pluridisciplinaire, des victimes d'infractions pénales, et cela gratuitement, et bien sûr sur la durée. Alors, l'objectif du 08 victime, c'est de permettre à toute personne qui s'estime victime d'accéder à une écoute qui permet de verbaliser les difficultés, des premières informations sur les démarches possibles et une mise en relation avec l'association d'aide aux victimes la plus proche de la personne. Les appels sont traités par des écoutants, qui peuvent être juristes, psychologues ou travailleurs sociaux également, mais qui sont tous formés spécifiquement pour répondre aux appels sur la plateforme téléphonique. Donc c'est une fonction de passerelle vers les associations d'aide aux victimes et les services partenaires, mais ça va au-delà, c'est-à-dire que l'entretien téléphonique est là pour favoriser la parole et l'émergence des difficultés rencontrées par les personnes victimes, parce qu'en fait, ils respectent les principes qui sont liés à la téléphonie sociale. Ces principes sont l'anonymat, la confidentialité, le respect de l'autonomie de la personne, le non-jugement et la juste distance. Alors l'anonymat, c'est une réalité qui est induite de fait par l'outil téléphonique. Pour l'appelant, l'anonymat permet la prise de parole sans avoir à affronter le regard de l'autre. Et pour l'écoutant, puisque c'est un anonymat réciproque, c'est un outil pour rester centré sur l'histoire de la personne. Le non-jugement n'exclut pas le rappel au cadre. C'est en fait un positionnement. C'est-à-dire que les écoutants peuvent tout à fait rappeler que ce que la personne vit est illégal, quel est le cadre de la loi. Le positionnement, c'est par exemple une position qui serait jugeante, où l'écoutant dirait « Pourquoi n'avez-vous pas porté plainte ?» Une position qui serait non jugeante serait de dire « Ce que vous avez subi n'est pas normal, c'est une infraction pénale et vous pouvez porter plainte. » Le respect de l'autonomie de la personne est important. Cela signifie qu'on ne fait pas les démarches à la place des personnes. On ne lui dit pas ce qu'elle doit faire. On respecte son rythme et les étapes de son parcours. Alors les objectifs de l'entretien téléphonique sont de faire émerger une demande, un besoin, aider l'appelant à mettre de l'ordre dans ce qu'il vit et à entrevoir des solutions, amener l'appelant à accepter une aide et permettre ainsi une orientation. Cette finalité, qu'est l'orientation, détermine la manière de mener l'écoute. L'entretien téléphonique, ce n'est pas une fin en soi. Au contraire, c'est même souvent le début d'une démarche, de plusieurs démarches. Et en fait, le risque serait que la personne soit confortée dans son isolement. C'est dans une relation téléphonique uniquement où il n'y a pas de rencontre physique. C'est pour ça que la spécificité de la plateforme de l'INAVEM, c'est de travailler avec le réseau des associations d'aide aux victimes, et cela participe à rompre l'isolement des victimes. Alors, je vais vous présenter le bilan statistique du 08 victimes à destination des sportifs. Donc, c'est un bilan qu'on a arrêté au 22 mai 2009, ce qui fait en fait 15 mois d'activité. C'est un bilan qui fait état de 69 appels reçus pour 49 victimes d'infractions. Là, nous avons la répartition par mois donc des appels que nous avons reçus. Avec différents petits pics d'appels, nous avons un premier pic d'appel mars et avril 2008. Alors mars 2008 correspond au lancement du dispositif, au lancement du numéro et la communication avec les affiches qui ont été, tous les supports de communication qui ont été envoyés. Et avril 2008, en fait, pourrait correspondre en tout cas à la première journée de sensibilisation qui a eu lieu à Montpellier. Donc là, en tout cas, on a atteint un pic d'appel important, le plus important depuis l'ouverture, qui doit en fait... Les raisons peuvent être cumulées certainement entre les journées de sensibilisation, la journée de sensibilisation à Montpellier et le démarrage, la communication sur le dispositif. Ensuite, on a un deuxième petit pic d'appel en octobre 2008 qui là pourrait correspondre aux journées de sensibilisation de Poitou-Charentes. Et pareil en février 2009, mars 2009 et avril 2009, où là il y a eu des journées de sensibilisation à Toulouse, à Bordeaux, en Bretagne et dans les Hauts-de-Seine. Donc on voit tout de suite qu'il peut y avoir un effet évidemment sur les appels, dès lors que les personnes sont sensibilisées et dès lors qu'il y a communication sur les dispositifs. Alors là, cela représente la durée des entretiens téléphoniques. Donc la durée des entretiens téléphoniques pour le 08 victimes à destination des sportifs est de 13,7 minutes en moyenne. C'est bien sûr une moyenne, donc il y a des appels qui vont de moins de 5 minutes à plus de 30 minutes. On constate en tout cas que par rapport aux 08 victimes généralistes, c'est-à-dire le 08 victimes qui reçoit les appels de toutes les personnes victimes, la durée est quasiment doublée, puisqu'elle est de 7,22 minutes en moyenne en 2008. Alors ça peut s'expliquer par différentes choses, et peut-être dans un premier temps par le fait que les appels concernent un public qui est particulièrement jeune, puisqu'en fait, il y a 65% des victimes concernées qui ont moins de 25 ans, ce qui n'est pas du tout le cas sur les 08 victimes généralistes. Et c'est vrai que lorsque l'on a affaire à des appels de personnes particulièrement jeunes, même si ce ne sont pas eux qui nous appellent directement forcément, ça peut être des tiers, de la famille, de l'entourage, des professionnels, on est particulièrement attentif puisqu'il s'agit d'un public qui est particulièrement sensible. Donc les appels sont plus longs effectivement sur le 08 victimes lorsqu'il s'agit des sportifs victimes. D'une manière générale, de toute façon, les appels ne doivent pas être trop longs. Parce que ils doivent permettre de créer une relation suffisante pour que les personnes parlent, soient amenées à parler, pour faire émerger la parole. Mais par contre, cette relation ne doit pas être trop intense, trop importante, puisque le suivi ne se fera pas sur le 08 victime, mais au niveau des associations locales. Donc il faut être toujours vigilant à créer un lien suffisant pour que la personne se sente en confiance, mais en même temps à ne pas aller trop loin, puisque de toute façon, il n'y aura pas de rappel, il n'y aura pas de suivi sur la plateforme téléphonique. Donc c'est important d'être dans cette limite-là. Alors, ensuite, on va passer au type d'appel. Donc on a 49 appels qui relèvent du domaine pénal. Ça veut dire que le dispositif est bien compris comme étant un dispositif pour les victimes d'infractions. 15 appels de professionnels. Donc ce sont des personnes qui sont en général souvent en demande d'informations sur le dispositif ou sur des structures sur lesquelles ils peuvent éventuellement orienter les personnes dont ils s'occupent. Un appel témoignant de fortes pressions sans relever du domaine pénal. Alors c'est vrai que des fois la qualification n'est pas toujours évidente. Là il s'agissait effectivement de pressions mais qui n'étaient pas liées ni à du harcèlement, ni à des pressions qui peuvent vraiment s'appliquer au domaine pénal, mais néanmoins qui a été traité bien évidemment puisqu'il méritait une écoute et des informations et une orientation. Et enfin, 4 appels tests. Ça, ce sont des appels qui ont lieu avant fin avril. C'est normal. Quand on démarre une ligne, il y a toujours des personnes qui testent la ligne. On a eu 4. C'est pas énorme. Alors, ensuite, on passe sur l'origine géographique des appels. Comme vous voyez, c'est assez éparpillé, on va dire, sur l'ensemble du territoire, avec même 2 appels des DOM. Il y a un appel de la Guyane et un appel de la Réunion. En orange, oui, vous avez les couleurs. En orange, ce sont les départements où les journées de sensibilisation ont eu lieu. Et en vert, ce sont les départements où il y a eu le plus d'appels. Donc, il n'y a pas forcément un lien. Parfois, il y en a, parfois non. Mais en tout cas, voilà, ça permet de voir un petit peu comment les appels sont répartis sur l'ensemble de la France. Alors ensuite, on passe à l'identité des victimes. Bien sûr, les 49 victimes d'infraction. Donc, les appels concernaient 18 garçons et 31 filles. Donc, une majorité d'appels concernant des victimes sportives. En fait, on retrouve ces mêmes données sur le 08 victimes généralistes. On a un plus fort pourcentage d'appels, soit de victimes directes ou de tiers, mais concernant en tout cas des victimes du sexe féminin. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a plus de victimes du sexe féminin que du sexe masculin. Ça, il y a d'autres études pour vous le dire. Mais en tout cas, on peut penser que les victimes du sexe féminin font peut-être plus facilement appel à ce type de dispositif. Au niveau des âges, on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure. Donc une majorité de jeunes, vraiment jeunes, puisqu'on a 24 et 8, 32 appels de moins de 25 ans, c'est beaucoup, et 12 appels de moins de 15 ans. Malgré tout, sur ces appels-là, en fait, il n'y a eu qu'un seul appel d'une mineure directement, une mineure qui avait 17 ans. Tout le reste, c'était des tiers. Donc d'une façon générale, peut-être que les mineurs ne se sentent pas encore, en tout cas au jour d'aujourd'hui, à appeler directement ce type de dispositif. Passe d'abord par un entourage, quel qu'il soit. Ça peut être des amis, ça peut être des personnes plus ou moins éloignées d'ailleurs du milieu sportif, qui elles se chargent de faire les démarches. Voilà. Alors ensuite, sur l'origine des appels. Donc sur les 49 appels concernant des victimes d'infractions pénales, il y avait 25 infractions répétées, 19 appels par une victime directe, donc un seul par une victime mineure, et 30 appels par des tiers qui se répartissent de cette façon-là, 6 issus de la famille, 8 représentants légaux, 12 professionnels, 2 de l'entourage amical de la personne et 2 autres. Autres, ça peut être un entourage plus éloigné. Voilà un certain nombre de possibilités. Alors là, ce qui est intéressant de noter, c'est que C'est l'inverse. Il y a 61,2% des appels qui sont issus de tiers. Et c'est exactement l'inverse, en fait, sur le 08 victimes généralistes, où il y a 70% des appels qui proviennent des victimes directement, et 30% donc des tiers. Voilà, donc ça peut être également lié effectivement au caractère particulièrement jeune du public concerné. Et puis on note aussi 40% des appels sont faits par des professionnels, donc 12 appels de professionnels, ça fait 40%, alors que sur le 08 victimes généralistes, c'est seulement 12% de ces appels qui nous parviennent par les professionnels. Alors, ensuite, en ce qui concerne les types d'infractions, vous voyez une grosse majorité concerne les viols et autres agressions sexuelles, donc toutes les violences sexuelles. Ça représente, je n'ai pas calculé le pourcentage, mais bon, il y en a 30. 3 concernent des violences volontaires, 4 des menaces et des injures, 1 concerne du harcèlement moral au travail, 1 concerne des accidents de la route avec dommages corporels, un abus de confiance et escroquerie, et enfin 9 autres qui sont en fait difficilement, qui ne sont pas des agressions sexuelles en tant que telles, mais qui peuvent être des comportements suspects ou des ressentis ou des attitudes de séduction sans violence sexuelle à proprement parler. Alors évidemment, même si ce dispositif a été mis en place pour prendre en charge les victimes de violences sexuelles dans le milieu sportif, on est amené à recevoir d'autres types d'appels concernant d'autres infractions qui sont bien évidemment traitées. C'est intéressant de voir que malgré une communication extrêmement ciblée, il y a tout de même d'autres types d'infractions qui ressortent, qui nous arrivent par les appels. Alors ça, je ne l'ai pas noté, mais je peux vous le dire, sur les 49 appels qui sont liés à une infraction pénale, il y a 19 sports différents qui sont concernés. Voilà, je ne les citerai pas, mais c'est pour vous dire que c'est extrêmement varié et répandu en fonction de tous les sports. Enfin, beaucoup de sports sont concernés, en tout cas. Bien sûr, tous les appels, qu'ils soient liés à des violences sexuelles ou à d'autres types d'infractions, sont traités de la même manière par les écoutants de la plateforme, en tout cas avec la même intention, parce qu'on sait bien que ce n'est pas le type d'infraction qui détermine la gravité des conséquences. On peut avoir été victime de quelque chose qui peut paraître extrêmement grave et avoir des conséquences moins importantes que quelque chose qui peut paraître un petit peu moins grave et qui pourtant a des conséquences dramatiques. Donc il y a eu 30 appels, on voyait, liés à des agressions sexuelles. Sur ces 30 appels, il y a eu 27 mineurs au moment des faits, un majeur au moment des faits et 2 inconnus, âge inconnu. Ce n'est pas toujours évident de demander à la personne quel est son âge quand elle n'est pas forcément très bien au téléphone. 16 mineurs au moment de l'appel et 14 majeurs au moment de l'appel. Lorsque l'on pose la question de savoir si l'entourage est au courant, si les personnes ont eu l'occasion d'en parler, alors il y a eu 12 inconnus qui n'ont pas souhaité répondre ou il n'a pas été possible de leur poser la question. Parmi donc les 30 appels, il y en a 6 qui l'ont révélé immédiatement à leur entourage. Et ces 6 correspondent en fait à des personnes pour lesquelles les faits ont eu lieu moins d'un an avant l'appel. Donc sur les 6, il y en a même eu 3 dont les faits avaient eu lieu moins d'un mois avant l'appel. Donc des faits assez récents. 10 l'ont révélé récemment, mais avec des faits qui dataient. Donc pour 2 personnes, les faits dataient de moins d'un an. Pour encore 2 personnes, les faits dataient d'un an. Pour encore 2 personnes, les faits dataient de 2 ans. Pour 1 personne, les faits dataient de 5 ans. 3 personnes, 17, 20 et 25 ans. Donc d'une manière générale, on peut voir que lorsque les faits sont plutôt anciens, les personnes ne l'ont pas forcément révélé tout de suite. En tout cas, elles l'ont révélé récemment. Ce qui est l'inverse lorsque les faits sont plutôt récents. Je ne sais pas si ça correspond à d'autres données, mais on pourra les regrouper. Toujours sur ces 30 appels concernant des victimes d'agressions sexuelles, il y en avait 12 qui avaient déjà déposé plainte au moment de l'appel. 9 l'envisagent, 4 disent clairement ne pas le vouloir, 1 le refuse en début d'appel et puis l'accepte suite à l'entretien, 3 hésitent, dont 1 clairement par crainte, et 1 n'avait pas porté plainte car les faits étaient prescrits. Toujours sur ces 30 appels et au moment de... Sur ces 30 appels et au moment de l'appel, justement, 12 de ces 30 personnes victimes avaient déjà mis en place un soutien psychologique, ce qui n'est pas du tout le cas sur le 08 victimes généralistes. 10 le demandent au moment de l'appel. Alors on peut supposer que comme les faits sont effectivement assez anciens, le soutien psychologique a déjà été mis en place, peut-être pas forcément pour cette raison-là au départ, pour d'autres raisons. En tout cas, il y a déjà un suivi psychologique pour une bonne partie de ces personnes. Alors, concernant la date des infractions au moment de l'appel, Sur le 08 victimes généralistes, la majorité des appels ont lieu 1 à 3 mois après la date de l'infraction. C'est-à-dire qu'en général, ce ne sont pas des personnes qui viennent juste d'être agressées, qui viennent juste de subir une infraction, puisque ce n'est pas un numéro d'urgence. Par contre, ce sont des personnes qui ont déjà un petit peu commencé des démarches, qui ont déjà déposé plainte, peut-être rencontré un avocat, et qui commencent à trouver à rencontrer des difficultés, et donc qui font appel à des associations. Là, ce n'est pas du tout le cas, puisque c'est majoritairement les faits ont eu lieu plus d'un an et jusqu'à 25 ans d'antériorité. Alors, cela dit, on peut préciser qu'à chaque fois qu'on lance un nouveau dispositif téléphonique, on constate que les appels concernent souvent des situations assez anciennes. Alors d'abord, c'est probablement que le numéro, en tout cas, n'existait pas au moment des faits. Et surtout qu'on assiste à un effet boule de neige. C'est-à-dire que l'évocation de situations similaires ou le simple fait que ces questions soient abordées encourage la parole de ceux qui se sont tus jusqu'alors. Dans la nature des réponses, alors en fait, les écoutants disposent de plusieurs outils pour mettre en relation les appelants, les victimes, avec les associations d'aide aux victimes. Ils peuvent soit orienter simplement les personnes vers les structures, donc ils indiquent en quoi la structure est susceptible d'apporter de l'aide à la personne, et puis ils transmettent les coordonnées, un certain nombre d'informations sur les professionnels qui se trouvent dans ces structures, les horaires d'ouverture, des choses pratiques. Et ensuite, la personne se charge de contacter l'association quand elle le souhaite. C'est elle qui engage la démarche et elle est libre de faire cette démarche au moment où elle le souhaite. Un autre outil, c'est la saisine ou le transfert d'appel. C'est-à-dire que là, la prise en charge se fait au moment de l'appel. Il y a possibilité de transférer directement l'appel vers les associations d'aide aux victimes, ce qui permet à la personne de ne pas avoir forcément à répéter ce qu'elle vient de dire au téléphone, encore une fois, pas toujours facile. Et le lien est immédiat, la personne a appelé un numéro national et lorsqu'elle raccroche, elle a un rendez-vous à côté de chez elle. Et puis la saisine, c'est en fait le fait de transmettre le dossier à l'association d'aide aux victimes immédiatement après l'appel, ça se fait par fax ou par email. L'association reçoit le dossier. Le dossier contient un certain nombre d'informations et à ce moment-là, c'est l'association d'aide aux victimes qui se charge de rappeler la personne pour lui proposer un rendez-vous dans les meilleurs délais. Donc ça permet en fait que les personnes n'aient plus à faire de démarches une fois qu'elles ont appelé la plateforme. Ça peut être souvent intéressant pour les personnes qui ont déjà fait beaucoup de numéros, qui n'ont pas trouvé des réponses, qui n'en sont peut-être pas au début de leur démarche. Et puis des personnes qui sont peut-être fragilisées, on sait qu'il faut leur faciliter les choses pour qu'elles puissent accéder au service des associations d'aide aux victimes. Alors, sur les appels que nous avons reçus, il y a eu 31 propositions de saisine de l'association d'aide aux victimes. Et sur ces 31 propositions de saisine, il y en a eu 15, donc quasiment la moitié, qui ont été acceptées. Ce n'est pas du tout la même chose sur le 08 victimes généralistes, puisque lorsque nous proposons des saisines sur le 08 victimes généralistes, il y a 15% des saisines qui sont acceptées. En tout cas, ce sont les chiffres pour l'année 2008. Les raisons du refus sont aussi intéressantes à regarder. Donc là, sur les 16 saisines non acceptées, c'était 11 personnes qui souhaitaient faire la démarche elles-mêmes et 5 personnes qui souhaitaient préserver leur anonymat. On a également des statistiques différentes sur les 08 victimes généralistes, puisque les personnes qui refusent les saisines souhaitent faire les démarches elles-mêmes. Dans quasiment la totalité des cas, il y a assez peu de volonté d'anonymat. Il y a plus de volonté d'anonymat, en fait, sur les appels concernant des victimes du milieu sportif. Alors ça, c'est la façon dont le numéro a été connu. Donc 29 par la publicité aux médias, ça paraît assez logique. 2 par des relations personnelles. 17, on ne savait pas, on n'a pas pu demander l'information au moment de l'appel. Et les 17 autres concernent corps médical ou paramédical, d'autres associations, des fédérations sportives, ou bien encore le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et enfin, pour finir, les appels de professionnels, donc 15 appels de professionnels, avec 12 demandes d'information, donc une grande majorité, et 3 demandes de documentation sur le dispositif. Voilà.
Merci beaucoup, Géraldine. Pour vous présenter un petit peu comment les choses se sont conçues, parce qu'il a fallu, dans ce domaine-là, les réfléchir un petit peu avant de les agir, dans un domaine où, justement, la pensée est souvent sidérée et empêchée. Donc, on devait s'adresser à un public que l'on a voulu large en termes d'âge, puisqu'on, comme je vous le disais, on a... On a été dans des institutions et dans des lycées. Les plus jeunes avaient 11 ans. Et puis après, on s'adressait jusqu'à l'âge adulte. Donc, dans notre conceptualisation de notre questionnaire, il fallait que les mots soient simples, compréhensibles et pas choquants. Ce qui, dans ce domaine, n'a pas toujours été très, très facile. Mais il fallait aussi qu'il soit précis. C'est-à-dire qu'on a répertorié une douzaine d'agissements qui vont, bien sûr, du harcèlement simple, c'est-à-dire de la brimade, du chantage, ce genre de choses, des insultes portant à connotation sexuelle, bien entendu, jusqu'au viol. Et le viol, il fallait le qualifier également. Parler de viol à des enfants de 11 ans, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, on s'est vraiment arrêté. On a un petit peu réfléchi sur la formulation. Mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on savait bien qu'en arrivant avec notre questionnaire comme ça dans les institutions ou dans les lycées, on n'allait pas être reçu de façon très, très amicale, déjà par l'institution, et qu'il fallait faire une approche un peu en douceur de ces jeunes sportifs. Et donc on a intégré la passation du questionnaire. Bon, Greg vous expliquera de quelle façon on a, voilà, on l'a mis en place, mais on l'a intégré dans dire une séance qui était pas vraiment, qui commençait de la sensibilisation, de la présensibilisation, où on questionnait, enfin, c'était très interactif, les jeunes qui allaient répondre ensuite au questionnaire sur leur représentation des violences sexuelles. Qu'est-ce que ça voulait dire violence? Qu'est-ce que ça voulait dire sexuelle? Qu'est-ce que ça voulait dire ces violences sexuelles dans le monde sportif? Donc on recueillait déjà beaucoup d'informations de façon instantanée et non réfléchie. En aucun cas on leur assénait un cours, mais on revenait sur des définitions, on revenait sur certains points. Sans déflorer, bien sûr, l'enquête qui allait suivre, sinon on avait un biais dans ce qu'on allait recueillir. Et ensuite, donc, bien sûr, il était à chaque fois présenté l'Institut d'aide aux victimes aux jeunes, parce qu'on pouvait craindre que lors de ces questionnaires se révèlent pour la première fois et peut-être aussi se passent des choses sur le plan clinique, émotionnel, que l'on dû se recevoir. Donc voilà, on avait un petit peu aussi cadré cela. Donc bien sûr, les gens qui se sont déplacés dans toute la France faisaient partie de l'équipe de recherche, étaient des personnes, des cliniciens, des chercheurs qui étaient bien avertis et prêts à recevoir tout ça. Ensuite, on s'est aussi inquiété, pas seulement à recueillir ces données brutes, je dirais, mais également à mesurer. C'est une première mesure, c'est évidemment pas très fin, mais c'est une première enquête, donc mais quand même on voulait le faire. Les stratégies de faire face, les conséquences d'abord que cela avait pu avoir sur la vie totale, c'est-à-dire la vie sportive, mais bien entendu aussi la vie affective, la vie scolaire, la vie familiale, sur le plan relationnel, pour chacune des personnes qui avaient pu subir des agissements. Et ensuite, les stratégies de faire face, comment ils avaient réagi. Et ensuite, également, s'ils avaient, pour finir, parlé. Hein, la révélation, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on peut faire des liens maintenant avec ce qu'on a pu recueillir dans l'enquête et ce qu'on mesure à l'INAVEM, le délai de révélation et également s'il y a eu ou pas une plainte de portée. Donc voilà, ça c'est pour vous mettre un petit peu dans l'esprit dans lequel on a été pour concevoir cette étude et puis ensuite la dispenser dans les différentes villes où nous sommes allés en France. Voilà, donc c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est tout frais, hein, c'est pas encore sorti dans les médias, donc vous avez cette chance de pouvoir bénéficier de ces premiers résultats. Je laisse la parole à Greg.
Bien, bonjour à tous. Alors effectivement, voilà les les résultats qui viennent conclure le travail que nous avons commencé à engager il y a maintenant presque 2 ans, et j'ai envie de renouveler la remarque qu'a pu faire Sabine tout à l'heure afin de remercier Isabelle de Mongeau qui a été au final l'instigatrice de tout ce dispositif. Alors, pour vous présenter tout d'abord de quoi il est question dans cette étude, comment nous avons défini les violences que nous avons évaluées. Il fallait commencer par cette étape parce que si on regarde les différentes recherches qui ont pu être menées sur le plan international sur les violences sexuelles dans le sport, c'est très disparate et d'un pays à l'autre, on ne parle pas des mêmes choses avec les mêmes termes. Donc il fallait déjà commencer par poser des choses clairement. On s'est inspiré des critères légaux du code pénal pour proposer une terminologie des violences sexuelles dans le sport, en distinguant d'une part les agressions, les agissements réalisés en faisant usage de la force, de la menace, la contrainte, la surprise, les atteintes, qui justement là, contrairement aux agressions, ne sont pas basées sur la force, la menace, etc. Et puis les harcèlements au sein desquels, en fait, on s'est rendu compte qu'il était intéressant de distinguer plusieurs formes de harcèlement. Tout d'abord, le harcèlement qui va prendre la forme de brimade et de chantage, mais également le harcèlement sous forme d'attitude, d'exhibitionnisme et de voyeurisme auxquels les sportifs peuvent être confrontés du fait des lieux dans lesquels ils se trouvent régulièrement du fait de leur pratique. Et puis pour évaluer la fréquence d'apparition de tous ces agissements, nous nous sommes inspirés questionnaire que j'avais pu utiliser avec Anne Jolie, qui était à l'époque la première et seule étude qui avait été menée en France sur une population d'étudiants STAPS. Donc nous avons créé, enfin tout du moins adapté, un nouveau questionnaire avec Sabine et puis l'équipe pour cette nouvelle étude, questionnaire dans lequel il y avait 12 items correspondant à l'évaluation des violences subies. Alors voilà un exemple d'item. Ça c'est l'item pour le chantage. Quelqu'un qui vous promet des privilèges ou récompenses en échange de faveurs sexuelles ou qui vous menace si vous refusez, etc. Pour chacun de ces items, 4 modalités de réponse. Non jamais, je ne sais pas, oui une fois, oui plusieurs fois. Alors la modalité de réponse je ne sais pas est importante. Alors vous allez dire, pour une situation comme ça, effectivement c'est pas toujours clair, donc c'est peut-être logique que des individus cochent je ne sais pas, sauf qu'on se rend compte que pour des items tels que le fait de subir une tentative de viol, certains sportifs cochent également la réponse je ne sais pas. Ça montre bien l'impact traumatique que peuvent avoir certaines situations, et ça montre que dans la mesure du possible, il faut quand même tenir compte des personnes qui cochent je ne sais pas. En tout cas, pour nous, c'est le parti pris de dire que si on n'utilise pas cette modalité de réponse, on risque de sous-estimer le taux d'exposition général. Hein, parce que concrètement, quelqu'un qui n'a jamais subi de tentative de viol, il est capable de répondre non. Hein. Donc si la personne coche je ne sais pas, c'est qu'il y a quand même une situation suffisamment ambiguë pour que ça déclenche soit un aménagement défensif, soit des difficultés à se souvenir, etc. Pour les personnes qui déclaraient avoir subi des violences, nous étudions le contexte de survenue de ces violences, par exemple le fait que ça se passe dans un cadre individuel, juste avec l'agresseur ou collectif. On s'intéressait à l'auteur de l'agression. Et puis pour ce qui est des mécanismes plus psychologiques chez les victimes, la responsabilité perçue chez les victimes dans la survenue des agissements, et puis les stratégies de faire face, également appelées stratégies de coping, la façon dont la personne s'adapte et fait face à la situation, et enfin le fait de divulguer les agissements et les conséquences de cette divulgation. Au total, un échantillon de 1407 sportifs, hein, répartis sur, alors on va dire sur l'ensemble du territoire national, même si c'est pas forcément représentatif de toutes les régions, on n'est pas intervenu dans toutes les régions, méthode d'échantillonnage qu'on va qualifier de progressive. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas intervenu en suivant une méthodologie telle que ça peut être le cas dans des études épidémiologiques où d'entrée de jeu, on cherche à inclure une population correspondant à des critères très, très précis. Là, c'est plutôt une méthodologie de recherche-action où, effectivement, pour nous, le fait d'intervenir pour recueillir ces données devait, au préalable, en tout cas, correspondre au fait d'intervenir dans des endroits, dans des structures où on avait suffisamment de garanties pour savoir que l'intervention allait bien se dérouler, que l'établissement allait être ouvert à ce type de démarche et donc favoriser notre intervention, ce qui allait favoriser la qualité des données recueillies. Donc c'est plus une méthode de recherche-action. Ça nous a au total permis quand même de toucher 44 disciplines différentes. Donc vous voyez que c'est très varié. Dans ces 44 disciplines, il y a des disciplines qui sont très fréquemment pratiquées au niveau national et puis il y a des disciplines qui correspondent à des effectifs beaucoup plus restreints également. Ce qui là pour le coup limite les statistiques qu'on peut faire sur des comparaisons entre disciplines qui n'ont là pas véritablement lieu d'être, parce que ça serait prendre le risque de stigmatiser certaines disciplines. Nous sommes intervenus dans des structures dépendant de jeunesse et sport, telles que les CREPS, l'INSEP. Nous sommes intervenus aussi auprès d'étudiants au sein du FRSTAPS. Pourquoi ? Bah parce qu'on sait qu'en victimologie, c'est plus facile, et notamment dans le domaine du sport, c'est plus facile pour les victimes de parler une fois qu'elles sont sorties des structures, parce qu'il y a déjà nettement moins d'enjeux. Donc la population d'étudiants STAPS était importante. Et puis nous avons également inclus des lycéens qui se trouvaient dans des sections sport-études. Au total, les âges sont très variés. Hein, des sportifs relativement jeunes à partir de 11 ans jusqu'à 35 ans. Bon, ben, ça c'est du fait de la population des étudiants STAPS. Quand même la majorité, hein, pas loin de la moitié, était âgée de 15 à 17 ans, et puis pour ce qui est de la répartition garçons-filles, vous voyez un peu plus de garçons que de filles dans l'échantillon. Alors, pour ce qui est des violences subies, alors quand je dis violences subies, c'est les violences déclarées par les sportifs. Là, si on doit faire un préalable méthodologique à la façon dont il convient d'utiliser ces résultats, c'est que tous ces résultats sont basés sur les déclarations qu'ont pu nous faire les sportifs dans les questionnaire. Donc sur les 1407 sportifs au total, on en a 17% qui déclarent ou qui pensent avoir subi des violences, c'est-à-dire très précisément 11% de sportifs qui déclarent en utilisant les modalités de réponse oui, avoir subi certaines formes de violences, et 6% qui utilisent la réponse, je ne sais pas, pour certains items. Hein, ces 6%, c'est par exemple, soit c'est uniquement des réponses non, plus quelques réponses, une ou plusieurs réponses, je ne sais pas. Voilà. Pour ce qui est du détail, nous avons, pour ce qui est de la catégorie qui revient le plus fréquemment, alors ça, c'est pourcentage, ça correspond aux réponses oui uniquement. La catégorie qui revient le plus souvent, c'est les situations d'exhibitionnisme et voyeurisme auxquelles sont confrontés les sportifs, un peu plus de 6%. Pour les trois autres catégories, harcèlement, atteinte et agression, on est à 4 et 3,5%. Tous les résultats, j'insiste sur le fait qu'ensuite, tous les résultats que je vais vous présenter dans les autres diapos sont basés sur les réponses déclarées par les 11% hein, de répondants qui ont coché la réponse oui. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, si on veut estimer l'ensemble du phénomène, on considère qu'il faut inclure dans la mesure du possible les répondants « je ne sais pas ». Pour la suite, on est parti sur les réponses pour lesquelles on était, il y avait des violences clairement déclarées. Alors maintenant, parmi les victimes, ben, vous voyez que on en a à peu près un tiers qui a subi des harcèlements, idem pour les atteintes, idem pour les agressions, hein, 34%, 36%, 32%, un peu plus de la moitié qui a subi des situations d'exhibitionnisme ou de voyeurisme, et pas loin de la moitié qui a subi plusieurs formes de violence, c'est-à-dire par exemple des situations de harcèlement et d'atteinte, ou des situations d'agression et de harcèlement. Autre élément important que nous avons pu repérer, c'est la répartition au sein de la répartition des réponses oui sur la réponse oui une fois et oui plusieurs fois, on s'est rendu compte que pour les agissements considérés comme les plus graves, alors plus graves entre guillemets, mais au regard de la loi, on se rend compte que ce sont les agissements les plus graves où on a la proportion de réponse oui plusieurs fois qui est plus importante. Sous-entendu, plus les agissements sont graves, plus ils ont tendance à se répéter pour la même victime. Ça concerne qui, ces violences? Puisque le discours de beaucoup de sportifs, c'est que, de toute façon, nous, ça ne nous concerne pas. Hein, que ce soit bon, dans certaines disciplines, selon le sexe. Bon. Alors, concernant le sexe, de toute façon, filles et garçons sont concernés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au sein des victimes, on retrouve des proportions de garçons et de filles qui sont équivalentes à celles de l'échantillon initial. Mais si on regarde un peu plus dans le détail, là il y a quelque chose de très intéressant qui apparaît, c'est-à-dire que ce sont apparemment les filles qui ont tendance à être victimes des agissements les plus graves. Si vous regardez les proportions hommes-femmes pour les catégories agression et atteinte, on voit que là il y a une nette distinction selon le sexe. Ensuite, pour ce qui est de l'âge, on retrouve des majeurs et des mineurs, hein, les deux catégories sont concernées, c'est-à-dire que la distribution des sujets en fonction de l'âge chez les victimes, elle suit la même courbe, hein, globalement, on a une distribution normale, elle suit la même courbe que celle de l'échantillon total de sportifs. Et puis enfin, il convient de dire que toutes les disciplines sont concernées. Alors là, on aurait pu faire des statistiques visant à comparer les disciplines. Comme je vous disais tout à l'heure, ça aurait été prendre le risque de stigmatiser certaines disciplines. Pourquoi? Parce que sur les 44 qu'on a dans notre échantillon, déjà, il n'y en a qu'une dizaine de disciplines qui dépassent l'effectif suffisant pour qu'on puisse faire des traitements statistiques de qualité dessus. Donc déjà, ça réduit à certaines disciplines seulement. On est obligé d'en laisser d'autres de côté. Ça serait prendre le risque d'interpréter les résultats comme quoi, dans ces disciplines-là, il n'y a pas de violence, alors que ce n'est pas le cas. On en retrouve dans toutes les disciplines. Et puis au final, si on prend les 10 disciplines pour lesquelles il y avait des traitements statistiques possibles, il y en a 5 qui ont des taux un petit peu supérieurs à l'ensemble de l'échantillon, et puis 5 qui ont des taux un petit peu inférieurs. Donc vous voyez que ça se contrebalance au final. Pour ce qui est des contextes de survenus, alors, pas loin de la moitié des agissements ont lieu dans un contexte qu'on va qualifier de purement sportif, c'est-à-dire entraînement, déplacement, compétition, et on a à peu près un tiers des agissements qui ont lieu dans des contextes un peu et des lieux autres, qu'on va qualifier de périphériques à la pratique sportive, c'est-à-dire des situations qui sont quand même un peu inhérentes au mode de vie des sportifs, surtout pour ce qui est des modes de vie pour ce qui est des sportifs qui sont hébergés dans des centres de formation, des structures jeunesse et sport, avec des situations de fête ou des situations de type rite initiatique, hein, avec parfois du bizutage. Si on regarde la répartition des violences qui se sont produites dans des contextes collectifs ou seuls avec l'agresseur, on voit que c'est quasiment équivalent. Ça veut donc dire que le fait d'être en groupe ne protège pas. Hein, ça casse un peu les représentations selon lesquelles ça se produit lorsqu'on est un peu isolé dans le vestiaire, etc., et qu'on n'est que deux. Non. Pour ce qui est des auteurs de violences, la majorité des auteurs déclarés sont des hommes. Et il convient de préciser aussi que on a quand même 80% des auteurs de violences qui sont connus des victimes. Hein. Mais bon, ça correspond aussi à ce qu'on retrouve dans d'autres domaines en victimologie. Résultat très intéressant qui là également vient casser les représentations qu'on peut avoir de ce phénomène, c'est que la majorité de ces violences ont lieu entre sportifs, c'est-à-dire la majorité des auteurs de violences envers les sportifs, ce sont d'autres sportifs, soit du même âge, soit un peu plus âgés. mais ça casse véritablement la représentation selon laquelle c'est par exemple l'entraîneur qui est l'auteur de ce type de violence. Si on regarde l'ensemble des violences de la part d'encadrants, alors par encadrant, là j'ai regroupé les entraîneurs, les dirigeants sportifs, les cadres, toutes les personnes qui contribuent à la préparation du sportif et qui peuvent avoir une figure d'autorité un peu sur le sportif, ça représente 17%. C'est nettement moindre. Bon, ceci dit, c'est quand même pas négligeable. Pour ce qui est de la responsabilité et la culpabilité, alors voilà, on demandait aux sportifs, selon vous, est-ce que vous pensez avoir une part de responsabilité dans la survenue de tout ça ? Pas du tout. Beaucoup, on leur demandait de placer une croix sur l'axe. On se rend compte que la majorité des victimes culpabilisent peu, c'est-à-dire plutôt tendance à cocher sur la gauche de l'axe. Il y a quand même certaines victimes chez lesquelles il y a énormément de culpabilité, et on se rend compte, ça également très intéressant, mais c'est un fait connu en victimologie, ça correspond aux victimes des agissements les plus graves. Plus j'ai subi quelque chose de grave, plus j'ai tendance à me culpabiliser et à considérer un peu que c'est de ma faute. Pour ce qui est des stratégies de faire face, 5 stratégies étaient évaluées, la recherche de soutien social, l'évitement cognitif, la minimisation, l'auto-accusation et la résolution de problèmes. À partir de ces 5 stratégies, on a 2 grandes tendances qui ressortent chez les victimes. La première, c'est une forte tendance à la minimisation, un des scores très élevés à l'item « je me suis dit que c'était pas si grave que ça ». Ça questionne. Ça questionne parce que ça peut être dû à quoi ? Est-ce que c'est un aménagement défensif ? Suite au caractère traumatique de la situation, est-ce qu'on a un aménagement défensif qui se met en place et qui fait que la victime supporte la situation grâce à ce type de cognition ? Ça peut être ça. Ça peut être également, et là c'est quand même très questionnant pour ce qui est de l'éducation et de la sensibilisation des sportifs à venir, c'est-à-dire, est-ce qu'au final j'ai pas intégré les codes et les valeurs et les pratiques qui sont fréquemment qui sont fréquentes dans le milieu sportif, c'est-à-dire des situations de bizutage, et on se gêne pas pour laisser perdurer des situations qui sont tout à fait intolérables et qui font que dans n'importe quel autre domaine, ça serait totalement intolérable, mais dans certains groupes sportifs, ça perdure. Mais est-ce qu'au final, j'intègre pas ça ? Au final, j'ai subi ça, mais il y a d'autres personnes qui l'ont subi, donc c'est pas si grave que ça. Ça questionne également, notamment en termes de prise en charge des victimes. Et puis, autre tendance, c'est la très faible propension à rechercher du soutien social. Certains en parlent, mais ils n'ont pas l'idée d'utiliser les membres de leur entourage pour trouver de l'aide ou du soutien. Ça également, c'est un élément à prendre en compte dans la prise en charge des victimes. Et puis pour terminer sur la divulgation, alors on avait quelques questions. Est-ce qu'ils en ont déjà parlé avant l'étude ? À qui ? Au bout de combien de temps ? Quelles conséquences ça a eu ? Etc. La majorité en ont parlé, environ 3 sur 4 avaient déjà parlé des violences subies avant l'enquête. Ça veut donc dire quand même pas loin de 25% des sportifs qui a parlé des violences subies pour la première fois en répondant au questionnaire. Ça, c'est pas négligeable quand même. La majorité en parle, qui en avait parlé, en ont parlé aux amis, à peu près 3 sur 4 également. Là où ça questionne nettement plus, c'est la très faible proportion de victimes qui en ont parlé aux adultes, moins de 15%. Les adultes étant quand même dans ces situations, les individus étant capables le mieux de les orienter et d'apporter des informations, que ce soit médicales, administratives, etc. Là, il y a quelque chose à développer aussi. Pour ce qui est du délai, il y a quelque chose d'important qui ressort, c'est que le délai est lié au sentiment de culpabilité. C'est-à-dire que plus le délai augmente, plus la culpabilité ressentie par le sportif va être importante. Ça va dans le sens d'inciter les sportifs à parler très vite, même si le délai n'est pas influencé par la gravité des faits. Là, par contre, c'est surprenant, ceux qui ont subi des choses graves ne mettent pas forcément plus de temps à divulguer que ceux qui ont subi des choses, entre guillemets, moins graves. Ça rejoint certains éléments qui ont été présentés dans les résultats de l'INAVM. Et puis, dernier élément de résultat, il y en a, entre guillemets, que 65% qui estiment avoir été crus par leurs interlocuteurs. En parler, ça a des conséquences positives et des conséquences négatives. des conséquences négatives parce qu'il y a parfois des enquêtes qui se mettent en place, les sportifs n'y sont pas toujours préparés. Ce qui ressort en tout cas et qui est important, c'est que dans tous les cas, lorsque les sportifs en parlent, les conséquences positives sont toujours plus importantes que les conséquences négatives. Ça aussi, ça va dans le sens d'inciter les victimes à parler. Et puis là, on a 5% des victimes qui portent plainte, donc ça questionne. C'est pas forcément comparable au résultat de l'INAVEM, vu que là, c'était sur les 30 cas de viol, etc. Bon. Donc en conclusion, hein, avec Sabine, on est d'accord pour dire que s'il y a une façon dont on doit parler de ce phénomène que sont les violences sexuelles dans le sport, c'est que c'est un phénomène qui est loin d'être anecdotique, hein, beaucoup plus fréquent qu'on peut l'imaginer. Et puis, surtout, c'est un phénomène qui ne correspond pas aux représentations qu'on peut s'en faire en termes d'éducation, non seulement des sportifs, mais aussi de l'entourage des sportifs. Ça, c'est un élément à prendre en compte. Voilà, pour ce qui est des résultats que j'avais à vous présenter. Merci.
Bonjour. Une question en fait sur l'auteur de violence. Comment était posée votre question? Parce que est-ce que c'était juste avez-vous été victime de violences sexuelles dans le cadre du sport? Parce que je me dis qu'il doit bien y avoir sur ces 1000 et quelques enfants des révélations d'abus intrafamiliaux qui sont apparus. Et alors, ça paraît pas dans vos chiffres en fait.
Alors non, puisque j'étais obligé de faire un tri hein, dans l'ensemble des résultats que j'allais vous présenter là aujourd'hui. L'enquête et les questions précises sur les auteurs et tout ça concernaient les violences survenues dans un contexte purement sportif. On avait quand même une question qui nous permettait d'avoir une idée de la proportion des sportifs ayant été victimes de violences dans des contextes autres que sportifs. Et là, on est à 6,6% de sportifs qui ont subi des violences dans des contextes, par exemple, scolaires, familiales, etc. Pour ce qui est de la question sur les auteurs, c'était une question à choix multiples, avec un certain nombre de propositions de réponses, dont une modalité de réponse ouverte. Donc au total, on avait, je crois, 7 modalités de réponses différentes, plus une où ils pouvaient préciser, donner un peu plus d'indications. Donc il y avait, un sportif du même âge, un sportif plus âgé, un entraîneur, un membre du personnel médical, c'était relativement varié. Voilà.
Et une deuxième question sur les 16% de femmes, en fait, agresseurs, puisque 84% sont des hommes, ça fait 16% de femmes.
Ouais. C'est même un peu plus que 16, je vais vous dire pourquoi.
Ah, en plus, parce les chiffres sont truqués, alors.
Non, parce qu'il y a des situations où, on le dit en souriant, là, mais parce qu'il y a des situations où, dans la mesure où c'est collectif, où les victimes ont subi des violences,
des violences
perpétuées par des groupes dans lesquels il y avait au moins un homme et une femme.
D'accord. Et donc, les 17,3% d'encadrants, c'est plus des hommes ou plus des femmes?
Ça, on n'a pas la réponse.
Merci. Bonjour, c'est une question pour l'INAVEM. Je voulais savoir si l'INAVEM avait pu glaner des informations au travers des appels sur la qualité de l'auteur, le mode opératoire. Est-ce que vous aviez est-ce que vous avez saisi ces occasions quand les appelants vous donnaient des éléments contextuels sur le passage à l'acte? Parce que c'est vrai que j'ai une curiosité sur cet aspect-là.
Alors, nous n'avons pas ce type d'informations. C'est-à-dire qu'elles peuvent nous être données pendant l'entretien téléphonique, mais on ne va pas les relever et on ne va pas les rentrer informatiquement. Ce sont des informations qui sont confidentielles, qui font partie de l'entretien, mais qui ne sont pas forcément retranscrites ensuite, soit aux associations d'aide aux victimes, soit tout simplement sur la fiche informatique. Donc, on n'a pas du tout ces informations-là.
Oui, je voudrais faire trois types de commentaires. Un commentaire sur la politique française dans ce domaine dont on se réjouit d'en voir l'apparition. Cependant, avec une pondération, c'est que la manière dont c'est présenté, c'est il y a quelque chose pour lequel vous avez subi un dommage, du coup vous vous appelez victime, du coup vous rentrez dans la procédure judiciaire. Et donc toutes les alternatives avant, pour arriver à gérer les problèmes, etc., sont un peu court-circuités. C'est ce qu'on rencontre quand on tourne dans le barnum organisé par le ministère. C'est ce qu'on rencontre aussi. La question, c'est, mais le signalement est-il obligatoirement la plus, procédure la plus adéquate. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui doivent se faire avant? Ça, c'est le premier commentaire. Deuxième commentaire, je crois que c'est très intéressant et qu'il faut saluer bruyamment la qualité de cette étude. Parce que je crois que là, on a affaire à une première, et une première qui est méthodologiquement solide. Je crois que ça, c'est tout à fait intéressant. Et du coup, méthodologiquement solide, elle peut nous permettre de comparer ce qu'il fait, par exemple, ce qu'il y a sur les violences dans l'entreprise, pour lesquelles il y a aussi beaucoup d'études, et on ne pouvait pas comparer avec le milieu sportif. Donc on a en fait la possibilité maintenant d'extraire le déterminant, qui est le déterminant pratique sportive, et surtout organisation, parce que c'est aussi un des gros points particuliers, c'est l'organisation du monde de la pratique sportive. De la même manière qu'on avait sorti dans les violences dans l'entreprise, suivant le type d'organisation et de fonctionnement pyramidal, horizontal, anglo-saxon ou modèle dit méditerranéen, que les violences n'étaient pas d'une même nature dans l'entreprise. Ça, je crois que c'est important. Et la troisième remarque, c'est pour le Naven, je suis toujours très choqué par le problème de la saisine. Je crois que quand dans la téléphonie sociale, les personnes, et c'est l'exemple que j'avais quand je m'occupais de drogue, alcool, tabac, faux services, quand les personnes téléphonent pour dans un anonymat, qu'ils souhaitent peut-être lever ultérieurement, mais anonymat, l'idée de faire qu'on passe d'un appel qui est d'une nature à quelque chose qui est d'une autre nature ultérieurement, qui est, on pourrait dire, suivre une affaire, pose des problèmes. Et ça pose le problème aussi technique de la téléphonie sociale, c'est est-ce que, entre guillemets, on a droit à un appel où on peut rappeler plusieurs fois, auquel cas vous savez parfaitement bien que sur les plateformes, quelquefois, on a des gens dont on reconnaît la voix, hein, qui appellent plusieurs fois. Donc le problème de la saisine est un problème fondamental pour une certaine téléphonie sociale ou non. Alors je pense que le fait que le concept de victime est de faire quelque chose pour des victimes et d'aider les victimes à faire quelque chose, là, a un certain nombre de limites, et ça c'est une question très importante sur laquelle, personnellement, moi je pense que la réponse est non, il ne doit pas y avoir de saisine. Je voudrais bien savoir votre argumentation parce que je sais que vous le faites souvent. De la même manière, pour les victimes d'accidents médicaux, hein, on s'aperçoit à peu près de la même chose, et à la commission et les experts que nous voyons là-dessus, on a le même problème, cette opposition à la saisine.
Merci, professeur Parquet. Par rapport à votre première remarque, on l'a un petit peu présenté rapidement, mais c'est vrai qu'on s'est inquiété en amont largement de cette question-là, et c'est la raison pour laquelle on a organisé ces séances de prévention dans les institutions qui dépendent du ministère pour l'instant, mais il y a aussi certaines régions qui l'ont appliqué en dehors des institutions du ministère, dans les clubs, dans les lycées, etc. Donc c'est quelque chose qui va s'étendre, c'était une grande première et ça s'est fait, je trouve, relativement vite si on considère certaines lenteurs administratives, etc. On a pu mettre en place quand même sur le terrain des actions importantes. On est allé auprès des jeunes, on a organisé des ateliers, on a conceptualisé des moyens de les intéresser à cette question-là, et ça a été richissime en termes d'interaction et de ce qu'on a pu recueillir. Donc, pardon ? Merci. Voilà, donc ça a été quand même quelque chose qui a été mené, c'est pour ça que je disais empiriquement tout à l'heure, mais parallèlement à l'étude, c'est-à-dire que l'étude a été un peu retardée aussi dans ses résultats pour avoir un échantillonnage un peu plus grand. Et ça nous a nourri un petit peu de part et d'autre, et ce n'est que le début, c'est-à-dire c'est une action qui normalement doit se pérenniser dans les différentes régions et s'étendre au-delà des CREPS et des institutions qui dépendent du ministère. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite, et je pense que les différentes régions et les différents services déconcentrés jeunesse et sport sont bien investis avec des personnes extrêmement motivées pour étendre cette action au-delà. Voilà. Et je laisse peut-être Géraldine répondre pour sa part ce qui concerne l'INAVEM.
Oui, alors effectivement, nous, ce qu'on appelle une saisine, c'est peut-être un terme pas forcément très adapté, mais en tout cas, c'est le fait de passer la situation à l'association. Je pense que c'est la même chose à Datis. En fait, c'est un outil qui est à disposition des écoutants et qui se met en place, bien évidemment, avec l'accord de la personne qui nous appelle, c'est-à-dire qu'on lui explique quelles sont les réponses qu'on peut apporter, les solutions qu'on peut apporter, c'est-à-dire la mettre en contact avec une association d'aide aux victimes qui va lui apporter un certain nombre de choses. Et ensuite, on lui laisse le choix de la façon dont la personne souhaite rentrer en contact avec cette structure. Voilà. Après, d'autres questions peuvent se poser, notamment sur le passage des informations, voilà, quelque chose d'important et sur laquelle nous travaillons avec grand sérieux, et nous transmettons en général le minimum d'informations, parce qu'on estime que voilà, les travailleurs sociaux du côté des associations doivent pouvoir recevoir les personnes. Voilà, donc nous avons bien ces notions-là en tête, mais en tout cas, c'est tout de même un outil qui facilite les choses pour beaucoup de personnes, qui est très facilitant pour accéder aux services des associations. C'est dans ce sens-là que c'est fait.
Vous avez dit tout à l'heure, et ça me pose question, qu'il était difficile de demander l'âge des gens qui appelaient. Comment pouvez-vous conseiller des gens sans savoir s'ils ont 12 ans, 15 ans ou 20 ans? Comment pouvez-vous les orienter vers quelque association que ce soit ou vers une saisine? S'ils sont mineurs, ils sont obligés de passer par un stade parental.
Oui, alors c'est vrai que c'est quelque chose qui concerne surtout des adultes. Quand on a une voix jeune au téléphone, on prend beaucoup de précautions. On en a très peu. On a eu un appel seulement d'une victime mineure directement. Donc sinon, ça concernait... c'était des tiers, en fait, qui appelaient pour des mineurs. Alors les tiers n'ont pas toujours l'information. Ils peuvent nous donner une tranche d'âge qu'on peut éventuellement noter, mais qui n'est pas précise en tout cas. Ensuite, lorsque nous avons des victimes en ligne majeures, puisque c'est la grosse majorité de ce que nous recevons, c'est vrai que c'est difficile parfois d'amener cette question-là, parce qu'on a parfois des gens qui reviennent d'un silence assez long, qui ensuite passent à des émotions fortes, avec des larmes, des choses comme ça. Et ça peut être un peu mal placé de leur dire, au fait, vous avez quel âge? Voilà. C'est pas forcément une information intéressante pour le traitement de l'appel. Évidemment, les grandes lignes, oui, bien sûr, savoir si c'est un mineur, si c'est quelqu'un, dans les mineurs, si c'est quelqu'un d'extrêmement jeune ou qui est plus vers la majorité. Mais après, que ce soit quelqu'un qui a 30 ans, 35 ans ou 40 ans, ça changera pas grand chose dans le traitement de l'appel. Voilà.
Alors bonjour, je suis Jonathan Rougier, psychologue au CHU Clermont-Ferrand. Ma question s'adresse à M. Descamps. Alors je suis très très intéressé par le protocole expérimental que vous avez monté, et en particulier par la partie sur les stratégies de coping. En fait, j'aimerais savoir si l'échelle que vous avez utilisée, elle est seulement en 5 points, parce qu'en fait j'utilise beaucoup l'échelle de Lazarus et Folkman, mais qui est très très longue à faire passer, parfois mal comprise. Est-ce que vous avez en fait créé une version plus courte? Et est-elle fiable statistiquement, si c'est le cas?
Oui, alors, vous mettez le doigt sur la partie du questionnaire dont je suis le moins satisfait, pour vous dire les choses clairement. Pourquoi? Parce qu'il fallait, au cours de nos interventions, réussir à investiguer un maximum de points avec un minimum d'items. Effectivement, traditionnellement, du point de vue de la recherche scientifique, si on veut avoir une mesure valide des stratégies de coping ou d'autres caractéristiques psychologiques, il est bien difficile d'avoir ça en un seul item. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a choisi de faire comme ça, en sélectionnant pour chacune des stratégies de coping l'item qui nous paraissait le plus représentatif et le plus parlant compte tenu de la population aussi des sportifs auxquels on allait avoir affaire. Maintenant, on a quand même modifié la modalité de réponse, c'est-à-dire que les questionnaires qui généralement on propose comme modalité de réponse quatre modalités. Là, on a mis une échelle de Likert pour augmenter un peu la sensibilité des scores. On ne s'est pas non plus tenu uniquement aux stratégies classiquement repérées par la majorité des auteurs, à savoir uniquement coping émotionnel, coping problème et recherche de soutien social, mais on est allé chercher des stratégies qui étaient identifiées dans des questionnaires qui avaient été adaptés de l'échelle de Lazarus et Folkman, notamment ces 5 stratégies sont issues du questionnaire créé par Isabelle Paulhan quand elle était ici au laboratoire de psychologie de la santé de Bordeaux 2. Le fait d'en avoir 5 pour nous, c'était aussi déjà mieux que se baser aux 3 grandes stratégies identifiées par tout le monde. Donc c'est pas un protocole purement expérimental. Et là, j'ai pas la possibilité de vous indiquer quelle est la véritable validité des scores recueillis.
Okay. En tout cas, c'est vrai que si vous avez cet élément, c'est intéressant parce que ça pourrait permettre de la valider, de la réutiliser si jamais c'est fiable.
Oui. Merci si ça beaucoup. Peut constituer une mesure rapide, effectivement.
Merci.
Oui, Carole Parmi, médecin de pôle Nantes, 44. Je constate que dans votre liste, il y a zéro appel en 44. J'ai aussi constaté la semaine dernière que les enfants des pôles que je suis ont été convoqués sans que je le sache au CREPS pour avoir une réunion d'information. Je l'ai su par l'entraîneur. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage de ne pas intégrer les gens qui pourraient répondre après un certain nombre de questions ou de réflexions. Et puis, pour avoir participé au plan violence ou avoir fait quand même beaucoup de signalements, je pense qu'il faut intégrer les médecins qui s'occupent des enfants dans ces choses-là.
Alors là, je me retournerai malheureusement vers le chef de projet, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, en principe, ils avaient l'obligation d'essayer de s'entourer de l'ensemble des acteurs qui travaillent non seulement dans le monde sportif, mais également à côté. Et je suis quand même très étonnée que vous n'ayez pas été sollicitée.
Vous avez bien vu que le 44 avait zéro appel.
Oui, mais attends, madame, si on a un chef de projet par région, on délègue le travail, il a été nommé par le directeur régional, je m'en ouvrirai au directeur régional du secteur. On n'a pas la prétention au niveau de l'administration centrale de tout régenter au niveau des régions. Bon, je le déplore.
J'ai déjà vécu ça avec le dopage, parce que les réunions concernant l'information sur le dopage se font sans le médecin, et j'ai déjà souligné ce problème et on m'a dit il faut que le médecin reste en dehors de ça parce que s'il intervient et s'il prescrit à tort,
là,
c'est une
pas
démarche
du tout la volonté en aucun cas hein. Je pense
non mais c'était c'est des problèmes organisationnels voilà. Qui font qu'on se coupe d'une marche qui
absolument.
Est très proche des enfants, oui, et je pense que sur au point de vue sur votre étude sur ces sujets d'agression, et nous on a des dossiers en ce moment qui sont en cours avec des plaintes en cours, on n'est pas passé finalement par ce biais-là et on aurait pu se faire aider.
Alors de quoi est-ce qu'on parle? On parle de l'étude ou des journées de sensibilisation? C'est pas la même chose, hein?
Non, je parle des
appels.
Je parle des journées de sensibilisation.
D'accord. En fait, les journées de sensibilisation, elles se sont pas faites au même moment. Elles se sont déclinées dans des temps différents. Donc il y en a qui ont déjà eu lieu. C'est le rapport que Josette vous a présenté. Mais il y en a qui vont se faire encore et il y a dans plein d'endroits encore des journées qui n'ont pas été faites.
Parce que si on comprend bien l'organisation, en fait, c'est le DR qui a nommé deux personnes. Ces deux personnes ne sont pas forcément proches des pôles. Par contre, elles ont appelé le CREPS. Et le CREPS a organisé la convocation des pôles.
Non. Il fallait pour toute opération, il faut un pilote. Le directeur régional nomme un pilote. Ils sont même un et un bis. Qui doit constituer une équipe de travail. Si vous avez accès au site intranet du ministère, toutes les régions qui l'ont voulu ont pu mettre l'ensemble des équipes régionales qui se sont occupées et qui s'occupent encore de ces journées de sensibilisation. Je peux vous dire que d'une façon générale, on pourra les regarder là si vous le souhaitez, il y a au minimum une dizaine de personnes qui tournent autour de ces journées de sensibilisation. Donc c'est pas une ou deux personnes qui ce sont les pilotes. Si les pilotes ne sont pas bons,
c'est pas qu'ils soient pas bons, c'est qu'ils s'ils ont pas la culture très très proche ou s'ils connaissent pas les médecins de pôle et l'action, le potentiel au décours de l'action, on se prive quand même
mais
de quelque chose.
Je suis tout à fait d'accord avec vous.
C'était juste une remarque.
Je trouve ça tout à fait dommageable.
Une toute petite remarque. C'est quand même la fonction régalienne de l'État de s'apercevoir si dans certaines régions ça ne se fait pas. Et je crois que c'est intéressant de voir, quand vous colligez les renseignements, les remontages de bretelles qui sont nécessaires dans certaines régions. Parce que comme ce thème a donné lieu à des réticences très importante à la fois d'un certain nombre d'acteurs de terrain de proximité et de responsables. Il y a des zones blanches en France sur lesquelles il est la fonction régalienne de l'État de faire que ce soit des zones où les citoyens disposent d'une sensibilisation à ces problèmes.
Oui, je vais en profiter, professeur, pour rappeler tout de même que le montage était quand même assez difficile. Il faut bien comprendre que les établissements qui relèvent du ministère hébergent des pôles de fédération. On ne pénètre pas de cette manière-là. Alors, ce qui est possible de faire avec le personnel fonctionnaire du ministère, l'ensemble des services déconcentrés, le travail qu'on a fait, il a été fait essentiellement avec les personnels des services déconcentrés et peu avec les personnels du milieu sportif. Parce que le mouvement sportif, même s'il y a 71 fédérations qui ont signé la charte, il y en a peu qui se sont manifestés pour nous dire comment ils déclinaient cette charte et quelles étaient les actions qu'ils avaient entreprises au sein de leurs organes déconcentrés. Donc, c'est pas en deux ans qu'on va casser le tabou et dire, écoutez, maintenant, voilà, ça va se passer comme ça, les bizutages, il n'y en a plus. Et je suis bien placée pour le savoir, puisque la plupart des appels, c'est moi qui les reçois au ministère. Donc, je peux vous dire que on est loin, on a démarré, on a fait quelques petits pas, qui sont déjà, je crois, très intéressants, à plusieurs titres, mais on a encore du travail sur la planche.
Voilà, c'est que le début, en fait. Hein. On est en place, on est en place et ça démarre. On va conclure.
Juste pour intervenir pour l'Aquitaine, puisqu'on est en Aquitaine, et pour dire comme ça s'est très bien passé avec le CAPS, justement, la direction régionale et le CAPS. En Aquitaine, on a fait intervenir les médecins des pôles, oui. On leur a demandé de venir. On a eu sur les 29 pôles, 25 pôles qui ont participé. Plus de 60% des sportifs de haut niveau ont participé, ceux qui sont dans les structures, parce qu'évidemment, on n'arrive pas toujours, et ça, M. Parquet, je suis désolé, mais on n'arrive pas toujours à toucher les sportifs qui sont hors structure. Et c'est une grande difficulté que l'on a, même s'il y a des campagnes d'information et autres. Donc le prochain axe, et là c'est très intéressant de voir le retour de l'INAVEM sur les attentes des professionnels de santé, donc sur les capacités de médecine et biologie du sport, on va faire une action. En direction des infirmières, on va faire une action aussi, certainement de sensibilisation. Le travail ne fait que débuter, de toute façon, comme tu le disais. Il y a tout un travail à faire auprès des comités, des ligues, des médecins de ligue, même des médecins fédéraux, même si c'est de leur ressort. Et en Aquitaine, on a pris le parti, certes, si ça coûte un peu d'argent, d'installer dans chaque pôle un médecin de prévention, qui est en plus du médecin fédéral qui intervient sur d'autres choses. Ce médecin de prévention, c'est quelques vacations, et il nous assure justement une structuration d'une équipe pluridisciplinaire pour ce genre de sensibilisation ou pour d'autres choses, de prévention des accidents ou de la traumatologie.